Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième session sur les nouveautés pour les développeurs de Windows Phone 8.1. Et j'ai toujours le plaisir de co-animer cette session avec Jonathan Antoine de la société Infinite Square.
Bonjour à tous. Oui, GS, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes sur Silverlight 8.1 et que la plateforme était loin de péricliter. Est-ce que tu pourrais nous montrer qu'est-ce qui peut être intéressant lorsqu'on va passer sur du Silverlight 8.1 ou de l'application universelle? Qu'est-ce qui va nous donner envie d'aller sur cette nouvelle plateforme?
Comme on peut le voir à l'écran, pas mal de briques utilisables à la fois en Silverlight et sur la partie projet universel. Donc on n'a absolument pas oublié les développeurs Silverlight 8.1. Et donc on va retrouver des choses comme le cycle de vie, donc tout ce qui va être multitâche, avec l'apparition de background tasks qui vont pouvoir être déclenchés via des triggers. Les packages AppX qui vont faciliter un petit peu la gestion des ressources. On verra ça un peu plus en détail. Les notifications de type WNS, donc maintenant on a unifié ça, c'est plus Microsoft Push Notification, on utilise ceux de Windows. Et puis tout ce qu'on voit à l'écran, les contrats de partage, le roaming et des choses qu'on va maintenant regarder beaucoup plus en détail.
Donc tout ça là, c'est ce que je vais avoir à disposition dans mon application Silverlight.
Exactement.
Oh, bah, y a pas de quoi s'ennuyer.
Donc on est parti, on va regarder ça tout de suite. Donc la première chose, c'est que on a effectivement des tuiles et une plateforme de notification maintenant qui sont communes. Donc tu sais que toutes les tuiles qu'on avait sur Windows 8, maintenant tous ces formats sont disponibles sur Windows Phone.
Super.
Et c'est également vrai pour toute la partie de push notification. C'est-à-dire qu'avant on était basé sur Microsoft push notification, il y avait des petits problèmes de performance, des choses comme ça. Donc maintenant on a récupéré tout ce qui existait sur WNS, donc la plateforme de notification de Windows, et on l'a porté sur Windows Phone.
D'accord, donc si j'ai bien compris, tout ce que j'avais sur Windows qui marche et qui utilise WNS, qui est super performant par rapport
Exactement.
À Apple, va fonctionner sur Windows Phone.
Exactement, c'est parfait.
C'est parfait, c'est super.
Alors pour ceux qui l'ont loupé, mais je ne pense pas, Windows Phone 8.1 propose un Action Center qui est très pratique, qui va me permettre d'historiser mes différentes notifications. Et ce qui est pratique pour les développeurs, c'est qu'on a des API qui vont permettre de manipuler mes différentes notifications pour les supprimer, en rajouter silencieusement si on souhaite, et les mettre à jour. Et on regarde ça tout de suite.
Si j'ai bien compris, ça permet d'envoyer des notifications à l'utilisateur, et puis cette fois-ci, les perpus comme avant, elles sont toutes listées dans l'historique, c'est ça?
Tout à fait. Et donc si on regarde à l'écran ce qui se passe, donc là par exemple, je vais pouvoir envoyer des notifications. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est que généralement on a un petit toast et on retrouve dans l'Action Center cette notification. Ça, c'est la nouveauté. Là, je vais pouvoir maintenant envoyer des notifications. Et si tu as remarqué, il y a une grande différence, c'est que là, il n'y a pas eu de pop-up qui s'est affiché. J'ai envoyé des notifications silencieuses qui vont apparaître uniquement dans l'Action Center.
Ouais, d'accord, donc les toasts avant c'était quand même assez intrusif parce que ça fait du son comme on a pu le voir. Et là du coup tu peux juste afficher à l'utilisateur, tiens il s'est passé tel truc, viens dans mon appli pour découvrir.
Exactement. Alors là à l'écran on va envoyer toute une série de toasts et donc toute une série de notifications qui sont disponibles dans l'Action Center. Ce qu'on peut voir c'est que on a également la possibilité de leur appliquer ces notifications un tag et un groupe. Et donc via les API, on va pouvoir supprimer ou modifier ces notifications, soit par tag, soit par groupe. Mm-hmm. Ce que je vais faire maintenant. Et donc là, on voit bien que toutes les notifications qui avaient un tag spécifique et un groupe spécifique ont été supprimées de centre d'action. On peut aller un petit peu plus loin. Je vais pouvoir envoyer une notification. Donc là, il s'agit de cours financiers. Donc là, on voit bien que en ce moment, ce cours est à 40$. Je vais mettre à jour le prix. Et donc là, de manière transparente, ma notification a été mise à jour pour l'utilisateur.
Ok, donc l'utilisateur, lui, il n'a jamais de données périmées. En fait, la toast est toujours à date.
Exactement, et c'est l'application qui va faire ce qu'elle souhaite.
Donc on a beaucoup plus de latitude que ce qu'on pouvait faire avant.
Exactement. Et maintenant, on va parler de précieuses données, c'est-à-dire de données roaming. Et là, c'est toi qui prends la main. Qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes de ce côté-là aussi. Précieuses données. un bon titre de slide parce que les données, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus important souvent dans une application et ce qu'on a vraiment envie de mettre en avant. Et sur Windows Phone, on a toujours eu l'isolated storage qui marchait même en WPF. On a l'isolated storage, on va pouvoir stocker des fichiers. C'est des choses qui sont spécifiques à l'utilisateur et qui sont que sur son device. Depuis Windows Phone 8.0, il y a la possibilité de faire un backup de son device. C'est une fois par jour, c'est automatique et c'est fait sur OneDrive. Donc si vous réinstallez un device en Windows Phone 8.0, bah, automatiquement il va proposer de restaurer une précédente sauvegarde.
C'est génial.
Donc il n'y a plus besoin de réinstaller toutes ces applications une par une, ni de les rechercher, etc. Tout ça c'est fait pour vous. Donc il faut savoir que le local state est sauvegardé aussi dans le backup. Donc ça existe toujours. Et puis il y a un nouveau truc qui est apparu. Tu nous as parlé tout à l'heure de lier des applications Windows et Windows Phone sur le store.
Tout à fait.
Et bien une fois que tu fais ça, tu as accès aussi à tout ce qui est roaming. Le roaming, c'est la possibilité d'avoir un dossier où on va pouvoir stocker jusque 100 kilobits de fichiers et qui vont être automatiquement synchronisés sur tous les devices de l'utilisateur. Donc j'ai une application Windows Phone qui sauvegarde quelque chose à l'utilisateur, par exemple ses préférences de l'application. Et bien ça va être synchronisé automatiquement sur son application Windows Phone. Et puis quand il va passer d'un device à l'autre, il n'aura pas besoin de rechanger ses settings, ça sera automatiquement fait.
D'accord, donc je peux partager vraiment l'état de mon application. Je commence à naviguer sur Windows Phone, je reprends mon application sur Windows 8 et je peux récupérer là où j'en étais par exemple.
Voilà, c'est exactement ça l'idée. Du coup, ça permet de continuer son expérience sur toutes les plateformes automatiquement. Donc ça, ça n'existait que sur Windows et maintenant ça existe aussi sur Windows Phone et entre les deux différentes plateformes. Et puis, j'aimerais parler d'un nouveau dossier qui a fait son apparition sur Windows Phone et qui n'existe que sur Windows Phone, qui n'existe pas sur Windows. C'est un dossier qui s'appelle Local Cache Folder. J'en ai parlé avant, on a le dossier local, on va pouvoir stocker des fichiers. Mais comme c'est sauvegardé, on va peut-être hésiter avant de mettre des données sensibles. Donc, on a ce nouveau dossier Local Cache Folder, où là, qui ne fera pas partie du backup téléphone sur le cloud. Et tout ce qu'on va mettre dedans restera sur le device, uniquement sur le device. Donc si le téléphone est écrasé ou effacé, eh bien ça sera supprimé en même temps. Ça, c'est ce dossier Local Cache Folder qui permet justement à stocker des informations sensibles.
Voilà. Sensibles. D'accord.
Au niveau du stockage de données, on a aussi le Credential Vault qui est apparu, qui permet de sauvegarder des données au niveau de Windows qui seront accessibles que par l'application et protégées par toute la sécurité Windows qu'on connaît.
Parfait.
Voilà. Donc, une fois qu'on a des données, souvent on aime les partager, c'est souvent ce qu'on fait tous les jours, tout le temps. Est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus, JS ?
Quelque chose qu'on connaît bien sur Windows 8, c'est la partie Share Contract, qui peut s'activer directement depuis la barre de Charms. Donc si on est dans une application, qu'on fait Share, on va pouvoir aller partager du contenu avec un certain nombre d'applications qui acceptent mon contrat de partage. Donc toute cette partie-là n'existait pas sur Windows Phone, aujourd'hui c'est le cas. Sur Windows Phone, avant, sur la version 8, on avait des petites tâches qu'on pouvait utiliser pour aller mettre un statut sur Facebook ou aller partager une image avec des applications. Là, on va aller beaucoup plus loin. On va avoir vraiment la même chose que sur Windows 8. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager le contenu qu'on souhaite. Et je vais vous montrer comment ça s'implémente.
Voilà, avant, on était limité vraiment par les applications de partage de l'OS.
Exactement.
Et là, maintenant, on va pouvoir brancher son application et partager du contenu avec toute une variété d'applications.
Voilà, et je retrouve mon application Contoso que j'ai montré dans la première session tout à l'heure. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va utiliser cet objet Data Transfer Manager et on va lui dire que quand j'ai besoin d'aller soumettre des données et partager ces données auprès d'une autre application, je souhaite m'abonner à cet événement qui s'appelle Data Requested. Dans cet événement On Data Requested, je vais aller partager mon contenu. Je vais revenir tout à l'heure sur le type de contenu que je peux partager. Bien entendu, je n'ai pas cette barre de charms qui existe sur Windows Phone, donc c'est à moi de solliciter le partage. Donc tout simplement, dans mon application bar ou dans mon application, je vais pouvoir déclencher l'interface graphique en appelant datatransfermanager.showshareUI. Et ça va lancer la petite gymnastique pour partager mon contenu vers une autre application.
D'accord, donc j'ai rien de spécial à faire, j'ai juste cet appel supplémentaire à réaliser et automatiquement je vais pouvoir partager n'importe quel contenu.
Exactement. Et dans mon application, à noter que c'est dans la partie share, donc dans le sens où je le partage entre mon application Windows Phone et mon application Windows 8. j'ai ce petit code très léger où je vais simplement dire que je souhaite partager les ingrédients et les directives de ma recette sous forme de texte à une application, potentiellement mail, OneNote, et on va regarder ça tout de suite.
Donc là, tu partages du texte et tu pourrais partager quoi aussi ?
On pourrait partager du HTML, voire des fichiers si on le souhaite. Exactement la même chose qu'on faisait sur Windows 8.
D'accord. Donc on a vraiment toute la latitude de partager ce qu'on souhaite.
Exactement. Donc là, on retrouve ma petite application Cookbook. Je souhaite partager cette recette avec quelqu'un. On va avoir maintenant ce type de choses apparaître. Et là, je vais pouvoir directement par mail transmettre ma recette à quelqu'un.
D'accord, donc avant j'étais obligé d'utiliser les shared tasks de Windows qui étaient vraiment spécifiques. Maintenant,
qui
j'ai
étaient
des
spécifiques
codes,
et plutôt limités dans l'usage. Finalement, ouais. Là, on va vraiment avoir des usages beaucoup plus intéressants directement sur Windows Phone. Donc, on a parlé des shared contracts, qui est une fonctionnalité assez sympathique, mais je sais que le geofencing est très sympa également. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
C'est parti ! Alors, le geofencing, déjà, qu'est-ce que c'est ? Le geofencing, c'est la possibilité de dire je vais déclarer une zone géographique et puis je vais déclencher du code quand j'arrive dans cette zone et que j'y reste 5 minutes, 2 minutes ou dès que je rentre dans la zone ou dès que j'en sors. Donc on peut mettre des triggers géographiques en quelque sorte. Alors sur Windows Phone et sur Windows, une zone géographique pour l'instant c'est un cercle. Donc on va donner le centre de cercle, la largeur de ce cercle, ça peut être de 1 mètre à 1000 mètres, 2000 mètres, etc. On définit vraiment la zone qu'on veut. Et puis, automatiquement, Windows Phone va déclencher du code lorsqu'on arrive dans ces zones. Donc, on va avoir deux possibilités. Soit dans l'application qui est en cours d'exécution, on va pouvoir déclencher le code tout de suite, s'abonner à des événements pour savoir, ça y est, je suis entré dans une zone. Et puis, on va même pouvoir aller plus loin. On va pouvoir dire, je veux déclencher une tâche de fond, même si l'application n'est pas en cours d'exécution, lorsque j'arrive dans une zone. Donc c'est assez puissant. Ce que je propose, c'est de regarder un petit peu dans le code à quoi
avec
ça ressemble.
Plaisir.
Donc je lance Visual Studio. Et là, on voit qu'on est dans un projet Universal App, mais c'est les mêmes API qui sont disponibles sur Silverlight.1, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Okay.
On va utiliser exactement la même chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà enregistrer un geofence. Un geofence, c'est ce qui va définir notre zone. Donc ici, c'est un cercle. Pour faire cela, c'est très simple, c'est un objet WinRT, donc on l'instancie, on va générer les différentes propriétés qui nous intéressent, et puis c'est simplement une instanciation, new geofence, on lui donne un ID, le cercle qui va définir notre zone, un masque, est-ce qu'on l'utilise une seule fois ou pas, est-ce qu'on a besoin de rester une certaine durée dans la zone pour que ça déclenche vraiment le geofence ou pas, et une fois qu'on a ce geofence qui est généré, on va pouvoir le passer à un objet qui s'appelle le geofence monitor. Ça, il y en a un par application, il est généré par le système, on n'a pas besoin de l'instancier, etc. C'est fait par le système et il a une liste de geofence. On ajoute simplement notre geofence à sa liste et automatiquement, lui, il va se débrouiller de la gérer et surveiller son état. Et une fois qu'on a cette geofence définie, on va vouloir s'abonner aux différents événements et surtout pouvoir déclencher une tasse de fond quand on arrive dans ces zones. Alors, comment on fait ? Tout ça, c'est du code, tout ce qu'il y a de plus classique, on va déclarer une tâche de fond. Donc vous savez le faire en Windows 8.1, et bien maintenant c'est la même chose sur Windows Phone. Je fais quoi ? Je crée un background task builder, je lui donne un nom, je lui donne un point d'entrée, la classe qui va être exécutée lorsque je vais avoir ma geofence qui est détectée. Et là la spécificité c'est que le trigger de déclenchement de ma tâche c'est un location trigger de type geofence. Voilà ici, je l'ajoute. Et je l'enregistre au niveau de l'OS. Une fois que ça c'est fait, automatiquement, ma background task va être déclenchée. Alors je regarde à quoi elle ressemble, ma background task, elle est ici. Geofencing background task, on voit que c'est un composant WinRT, donc rien de vraiment spécifique, qui implémente iBackground task. Et voilà, là automatiquement, ce code, le run, va être appelé lorsque j'entre dans le geofence. Alors, est-ce que j'ai que ça à faire ? Non, j'ai un petit peu plus de choses à faire. C'est dans le fichier manifeste de mon application Windows Phone. Donc maintenant, il y a un manifeste dans les applications Windows Phone pour déclarer ce qu'elle fait, comme on avait sur Windows 8. Bah, dedans, je vais déclarer dans les déclarations de mon application une background task. Et puis, je vais dire que c'est une background task de type location et que je rappelle la classe à appeler lorsque le geofence est déclaré. J'ai référencé dans mon projet Windows Phone la background task et là je vais pouvoir exécuter mon application. Donc je lance l'application dans l'émulateur. Hop. j'ai ce sample qui est déclaré. Donc là, je vais déclarer mon geofence. Donc je vais déjà lui donner un nom. Donc je vais l'appeler build. J'ai la build et puis là, il a besoin d'une position, dire à quel endroit je veux définir la zone. Donc là, je dois rentrer des coordonnées GPS. Comme je ne suis pas encore fluent en coordonnées GPS, je vais utiliser les outils de l'émulateur. Hop. Donc je clique sur cette petite flèche et puis je vais retrouver cet écran, ce tab de gestion de la localisation qu'on connaît. Donc là, je suis à Seattle. Bonjour David. Hop. Et je vais dire que je veux c'était comme centre de mon cercle de geofence la position actuelle. Donc là, il l'a récupéré, API classique. Je vais dire que je veux utiliser un geofence de 2 km. Donc à 2 km autour de ce point là, je vais avoir mon geofence qui est déclenché. Une fois que c'est fait ça, je vais l'enregistrer. Donc j'ai créé la geofence, le code qu'on a vu tout à l'heure. Il est en train de l'effectuer. Une fois que c'est fait, je vois que j'ai ma geofence qui est bien créée. Et puis, j'ai encore aucun événement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est déclencher des événements. Donc pour ça, déjà, je vais quitter geofence. Donc je vais aller me balader à Bellevue. Voilà. Je vais patienter un petit peu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas non plus du temps réel. Parce que sinon, la batterie de votre Windows Phone serait finie en 5 minutes. Donc là, je vais devoir attendre un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, je vais bien avoir l'événement qui apparaît à cet emplacement. Hop, je peux aussi revenir à cet emplacement, me déplacer comme un utilisateur normal. Là, j'utilise un tapis volant pour aller rapidement de Seattle à Bellevue. Et à ce moment-là, j'ai bien mes événements qui sont enregistrés par le téléphone. Et si on attend un petit peu, on va bien avoir les événements qui se listent là. En attendant que les événements arrivent, ce qu'on va faire aussi, c'est aller enregistrer notre tâche de fond qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais aller quitter cet écran, hop, je reviens sur le background geofencing et je m'enregistre. J'enregistre ma tâche de fond. Hop, voilà. Là, elle est enregistrée. Donc là, ça veut dire que j'ai une tâche de fond qui va être déclenchée lorsque je me déplace. Donc là, je suis en debug dans Visual Studio. Ce que je vais faire, c'est aller mettre un petit point d'arrêt dans ma tâche de fond. Hop, il est déjà mis. On est là. Je retourne lancer l'émulateur, je me déplace à nouveau, et au bout d'un moment, je vais avoir mon événement qui est remonté par l'OS. Hop, là déjà on est rentré dans ce geofence build, donc je retrouve le nom, je donne l'heure à laquelle je suis entré dans le geofence, et au bout d'un moment, je dis voilà, là, je viens de quitter cette geofence. Donc, ça fonctionne bien. J'ai ma tâche de fond qui va être déclenchée prochainement. Voilà pour le geofencing.
Merveilleux. Donc, plein de nouvelles opportunités pour les développeurs et des scénarios qui vont voir le jour, qui vont être assez sympathiques.
Oui.
Je crois qu'il y a des choses aussi dont tu veux nous parler sur la partie vidéo recorder. On va parler également de l'édition vidéo. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'abordera pas dans cette session, mais juste maintenant, timidement. Il y a quelques nouvelles API qui permettent d'éditer des vidéos. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir véritablement prendre une vidéo, la rattacher à un deuxième. Donc on fait vraiment du montage vidéo. Ça, c'est des API qui sont spécifiques à Windows Phone, qui n'existent pas sur Windows 8, donc très, très sympathique. Et on peut accéder maintenant à des couches même beaucoup plus basses au niveau de Media Foundation pour, par exemple, appliquer des filtres à des vidéos. C'est des choses qui étaient un petit peu compliquées précédemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'appliquer ce type de filtre. Voilà. Et une brique qui m'intéresse et que j'aime beaucoup, et particulièrement pour les jeux vidéo, ça va être la partie vidéo recorder. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ?
Voilà. Fonctionnellement, c'est quelque chose de très simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'application est en mesure d'enregistrer tout ce que fait l'utilisateur. Donc, c'est très simple à comprendre. Et après, on va avoir des scénarios au niveau de jeu qui sont assez sympas. On va pouvoir un utilisateur qui joue. Et puis, au moment où il arrive sur la fin, où il va battre son score ou faire une action un petit peu spécifique, on va pouvoir déclencher l'enregistrement de ce que fait l'utilisateur. Puis après, on va avoir une vidéo qui est générée de cet enregistrement. On va pouvoir lui appliquer des effets avec Media Foundation ou avec les API d'édition de vidéo dont tu viens de parler. Et cette vidéo, on va pouvoir la partager. Donc ça permet de créer des expériences de jeu très sympas et pour faire encore plus connaître son jeu, avoir un effet viral en partageant sur des réseaux sociaux. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder assez succinctement comment ça fonctionne dans les API pour montrer que c'est quand même relativement simple d'utilisation. Donc là, je vais vous lancer Visual Studio. Puis avant de rentrer dans la technique, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle Project My Screen, qui est sur Windows Phone 8.1, qui permet de reprojeter sur un écran d'ordinateur ce qu'il y a sur votre Windows Phone. Donc,
très pratique.
Très, très pratique. Donc là, je lance Screen Recorder Sample. Et j'ai deux boutons et un petit point bleu que je peux déplacer. Le point rose correspond à l'emplacement de mon doigt. Donc je vais déclencher l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Et puis je vais dessiner un 8 sur mon écran.
Très beau design.
Très beau design. Et je vais appuyer sur Stop Recording, le bouton qui arrête l'enregistrement. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que il va rejouer ce que j'ai fait à mon écran. Et voilà.
Parfait. Donc, très utile pour les jeux vidéo, par exemple, quand on veut rejouer une séquence. Mais voilà, on peut effectivement voir ce type de scénario un petit peu partout se développer. Vraiment très sympathique.
Voilà. Donc, au niveau du code, c'est tout simple. J'ai un objet screen capture à récupérer pour ma vue courante. Hop, et j'utilise comme initialisation d'un media capture qui existait déjà avant pour enregistrer depuis la caméra. Et ensuite, c'est du code tout ce qui est plus classique. Je l'enregistre dans un fichier, je l'encode automatiquement en MP4. Et une fois que la capture est terminée, j'utilise un media élément pour le jouer. Donc il n'y a rien de spécifique. La partie nouvelle, c'est vraiment screen capture à récupérer qui va servir comme source d'enregistrement.
Génial.
Donc là, on l'a vu, il y a des super outils qui font leur apparition. Et moi, j'aimerais bien, Jean-Sébastien, que tu nous montres les nouveautés d'un point de vue outillage.
Alors, pas mal de choses. Avant de parler vraiment des outils, on va parler de cet émulateur en lui-même. Si on voit bien, pour les amateurs de Windows Phone 8, on peut voir qu'il a une petite différence quand même assez notable. On a maintenant des boutons hardware qui sont apparus sur la droite. Et donc, on n'a plus besoin du Simulation Dashboard, par exemple, pour activer le screen. On peut directement aller sur ce petit bouton power, appuyer dessus et le lock screen apparaît à l'écran. Pareil pour la partie volume up, volume down et la caméra. Donc tous les boutons physiques sont directement accessibles dans l'émulateur. Ensuite, si on va dans la partie vraiment outils qui sont associés à l'émulateur, alors on retrouve l'accéléromètre. Pour les amateurs de Marble Maze, voilà, cet accéléromètre va nous permettre de jouer. Alors, excusez-moi, portrait flat, on commence. La musique est un petit peu agaçante, mais tout se passe bien. Donc ça évite finalement d'avoir un device physique pour pouvoir tester ce genre de capteur. On va arrêter très vite la musique pour tout le monde. La location, donc tout ce qui va être GPS et navigation, tout à l'heure tu as montré ça pour la partie geofencing. Screenshot, rien n'a spécifiquement été modifié. Par contre, au niveau du network, il y a des petites choses également qui ont évolué. On peut voir que les éléments du Simulation Dashboard pour émuler la qualité de la connexion Internet, si on est en 2G, 4G, si le signal est relativement correct ou non, tout ça, ça a été intégré nativement dans cette partie de l'émulateur.
D'accord, donc c'est plus cohérent, on va retrouver tous les outils de l'émulateur dans l'émulateur.
SD card, ça n'existait pas avant, c'est lié aux nouvelles API. On a la possibilité de proposer en fait au téléphone d'avoir une SD card. Donc on va simplement aller cibler un répertoire sur mon PC et depuis mon application, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe dans ce répertoire par exemple. Notification, très intéressant. La partie WNS est intégrée, on va pouvoir simuler des notifications grâce à WNS depuis directement mon interface et mon émulateur.
Ah, ça c'est super pratique quand on est dans le train pour débugger ces notifications. Ouais.
Par exemple. Checkpoint, ça c'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement. Avant qu'on fermait finalement l'émulateur et qu'on le rouvrait, c'était un reset complet. Alors pourtant c'est une image virtuelle, c'est Hyper-V qui est derrière, c'était dommage de ne pas faire des points de restauration. Et donc maintenant tout l'état de ma VM va être sauvegardé. Donc toutes les applications que je vais installer dessus, je vais pouvoir les garder. Je ferme ma VM, je la rouvre et je récupère l'ensemble de mes applications.
D'accord, donc j'ai pas besoin de repasser en plus ma VM à chaque fois en français.
Exactement. Super simple. Et je peux même avoir plusieurs points de restauration. Donc si je vais en clientèle, je peux très bien avoir de mes VM qui sont préparées pour les différents clients que je vais les voir dans la semaine.
C'est pas mal du tout ça.
C'est pas mal. Sensor, une petite brique complémentaire pour éventuellement supprimer certains capteurs du téléphone et voir comment votre application va se comporter par rapport à ce type de choses.
D'accord. Voilà.
Donc là, j'ai parlé de l'émulateur. J'ai envie de parler quand même de deux autres points. Donc c'est Project MyScreen dont tu as parlé tout à l'heure, qui est vraiment un outil que vous pouvez télécharger, qui est très utile, où vous pouvez maintenant en USB out projeter ce qu'il y a sur votre écran directement, enfin, sur votre écran Windows Phone, directement sur votre écran de PC. Avant, c'était quelque chose qui était vraiment uniquement utilisable par les gens de Microsoft ou les partenaires avec des ROM particulières. C'était vraiment compliqué. Maintenant, ça, c'est ouvert à tout le monde et tant mieux. Et le dernier point, ça va être sur la partie Visual Studio. Donc, on peut prendre n'importe quel projet. Vous avez une section Tools et si vous regardez en haut, vous avez une nouvelle section Windows Phone 8. Il y a trois outils qui apparaissent dans cette section. Il y en a deux qu'on connaît très bien. C'est la partie Unlock pour enregistrer son téléphone et la partie Application Deployment pour pouvoir aller prendre un package XAP ou AppX et directement le mettre soit dans une machine virtuelle, soit directement de le déployer sur son device, son périphérique.
Donc ça, c'est des trucs qui existaient avant, ça, qui existait, sont plus faciles à trouver maintenant.
Exactement. Le dernier point qui est pas mal, c'est Developer Power Tools. Et là-dedans, on voit apparaître trois outils, Application Verifier, Performance Monitor et Performance Recorder. Application Verifier, c'est un outil qui est assez connu moi, depuis des années, plutôt destiné au départ sur des applications Windows et puis qui a évolué. L'idée, c'est de pouvoir... attendez, je vais juste me connecter à un émulateur, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'analyser les fuites mémoire, les leaks, les choses comme ça, facilement. Et ça, c'est vraiment un outil qui est destiné aux fuites mémoire.
D'accord. Donc ça, j'ai l'outil qui est intégré dans Visual Studio et je peux trouver toutes les fuites mémoire de mon appli.
Exactement.
Facilement.
Voilà. Il y a plein d'autres choses que je vous invite à découvrir. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est très pratique. Pour les performances, on a non pas un outil, mais deux outils. Performance Monitor qui va nous permettre de monitorer en temps réel l'application, donc pour connaître sa consommation en termes de CPU, de mémoire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment du temps réel. Et Performance Recorder, ça va être potentiellement pour faire la même chose, mais en mode déconnecté. C'est-à-dire que je vais pouvoir lancer un traçage sur mon device. J'enlève le câble, je me balade, j'utilise mon application normalement. Je regarde comment elle se comporte. Après, je remets le câble. Je lui dis « arrête le tracing ». Il va me générer un fichier ETL que je vais pouvoir analyser. Et je vais pouvoir comme ça regarder exactement comment mon application se comporte dans la vraie vie, avec des vraies données et non pas juste dans mon émulateur.
Donc, je peux même passer, activer cette fonction sur un téléphone d'un copain pour qu'il teste mon appli. Il
par
la
exemple.
Teste, il a un crash ou autre chose. Voilà. Et là, je vais pouvoir le suivi.
Voilà, on peut regarder le suivi et exactement analyser en post-mortem exactement ce qui s'est passé sur le téléphone.
Ah, c'est très pratique, ça.
Très pratique. Voilà, et pour le coup, on va clôturer avec ces petits outils notre présentation. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore d'avoir participé à cette session. Et puis, n'hésitez pas à suivre l'ensemble des sessions du cursus autour de Windows Phone et de Windows 8. Merci beaucoup.
Merci à tous.